Vous écoutez
RMC.
7h59, il fait nuit à jouer, froid.
Oui, mais j'ai une bonne nouvelle, il va faire beau pour le week-end de Pâques.
Vous êtes
soleil
pardonné alors.
Pour tout le monde, il fera plus de 25 degrés lundi de Pâques dans le sud-ouest quand même. Alors, autant vous dire que pour l'instant, c'est pas du tout le cas, puisqu'on a encore un temps qui va être assez frais. Très nuageux aujourd'hui sur toute la moitié ouest, avec des pluies faibles, avec pas mal de neige sur les Pyrénées. Le soleil, encore une fois, ce sera pour la Méditerranée, mais avec toujours beaucoup de mistral, beaucoup de tramontane. Donc les températures, ce matin, c'est à peu près de saison. Ça restera toujours un peu frais cet après-midi. On reste sous les normales, avec seulement 11 degrés à Lyon, Clermont-Ferrand, Nancy. 12 à Paris-Lille, 14 à Marseille, 15 à Bordeaux-La Rochelle, 16 à Nantes, jusqu'à 18 pour Nice et Ajaccio.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous entendez ce matin sur RMC le témoignage de la maman d'un des trois bébés décédés après avoir consommé un lait contaminé. Et avant l'audition à l'Assemblée nationale aujourd'hui, des cinq grands groupes industriels concernés par ce scandale des laits infantiles. On sera à Nantes dans ce journal où les transporteurs routiers mènent une nouvelle action ce matin face à la flambée des prix des carburants. Et on vous dira comment vous procurer des places pour le grand retour de Céline Dion en septembre à Paris.
C'est une maman en quête de réponse qui témoigne ce matin sur RMC.
Elle s'appelle Camille, elle habite à Angers et elle a perdu en décembre dernier son nourrisson qui avait consommé un lait en poudre dont le lot avait été rappelé quelques jours plus tard. C'est un des trois bébés qui est décédé dans ce scandale d'IDEA, lait infantile contaminé. Trois enquêtes sont ouvertes, bien qu'à ce jour, aucun lien n'est établi scientifiquement. Voilà ce que répètent les autorités. C'est Solène Leroux qui a recueilli le témoignage RMC de cette maman qui a donc perdu son enfant.
Un bébé étoile filante, c'est ainsi que Camille parle d'Isis, un nourrisson vif en avance qui, à trois semaines, sourit déjà. Le 22 décembre au soir, Camille donne du lait gigose à sa fille.
À la suite de ce premier biberon de cette boîte de lait, elle a eu des diarrhées, chose qu'elle n'avait jamais parce que c'était un bébé constipé.
Deux autres biberons suivent, le dernier vers 2h30 du matin.
À 6h15 du matin, je me suis réveillée en sursaut et j'ai retrouvé mon bébé cyanosé, les yeux et la bouche bleue avec du sang qui sortait par le nez. J'ai même pas pu lui dire au revoir.
Camille entend très vite parler des lots de lait contaminés à la toxine céréulide et s'interroge.
Je me pose la question de savoir si y aurait un lien entre le lait et son décès.
Début mars, une dose anormale de toxine est retrouvée dans le lait consommé par Isis. Contactée, Nestlé, société mère de Gigos, souligne qu'aucun lien n'est avéré entre leur lait et les décès des nourrissons. La maman de 27 ans, elle, attend de nouvelles analyses.
Je suis juste une maman qui attend et qui a perdu son bébé. J'ai besoin de résultats, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de réponses, j'ai besoin qu'on nous parle en fait, tout simplement.
Pendant ce temps, les journées de Camille se ressemblent tristement. Elle dépose sa fille de 6 ans à l'école, se rend ensuite sur la tombe d'Isis, puis guette sur son téléphone la moindre nouvelle de la justice.
Alors les aura-t-elle les réponses? C'est aujourd'hui donc que cinq groupes industriels sont entendus par la mission de l'Assemblée nationale à propos de ce scandale des laits infantiles. C'est une journée de grève qui commence dans les écoles primaires et secondaires. Ça concerne aussi les collèges et les lycées à l'appel de cinq syndicats. L'un d'eux parle d'un mouvement suivi par 30% des enseignants dans le primaire contre 4000 suppressions de postes annoncées pour la prochaine rentrée, celle du mois de septembre. Il y a ces nouvelles actions des transporteurs routiers, donc ce matin, il va y en avoir toute la semaine, face à la flambée des prix des carburants, le litre de gazole dépasse les 2,20 €. Ce matin, ça n'a jamais été aussi élevé. Une trentaine de camions et de fourgons sont déployés depuis 6h ce matin sur le périphérique autour de Nantes. Ils bloquent un pont pour demander bien plus que le plan du gouvernement à 50 millions d'euros pour le mois d'avril. Écoutez-les ce matin au micro RMC, notre correspondant Martin Lange.
On a pris 50 centimes en fait en 15 jours. Niveau trésorerie, c'est un peu chaud quoi. Moi, aujourd'hui, ça me coûte 14 000 euros de surcoût par mois. On ne comprend pas pourquoi ça a augmenté si vite. On peut tenir un petit peu, mais pas longtemps quoi. Donc il va falloir trouver des solutions. On n'a pas le choix.
Il faut bloquer le gasoil déjà, le prix du gasoil. 60% de taxes, je pense qu'il y a moyen. Là, la situation, elle dure depuis un mois. Mais si elle dure 3 mois, 6 mois, on fait comment?
Il n'y aura plus personne pour travailler, plus personne pour faire ce métier-là. Comment voulez-vous que les jeunes aujourd'hui vivent dans un stress permanent en se demandant comment ils vont faire? On est indispensable. Si demain on n'existe plus, on fait comment?
Alors jusqu'où ça ira? Ça aussi, c'est une question. Ce matin, à l'instant, on apprend que des sites militaires sont touchés par des frappes dans le centre de l'Iran. C'est ce que nous disent les médias iraniens. Il y a quand même ce nouveau revirement de Donald Trump qui serait prêt à mettre fin à la guerre, même sans obtenir la réouverture du fameux détroit d'Ormuz. C'est ce qu'écrit la presse aux États-Unis, où tient le gallon d'essence a franchi le seuil des 4 dollars. 4 ans que c'était pas arrivé, hein, qu'il soit à ce seuil-là. Il était même sous le dollar au mois de décembre. Et alors, dans ce contexte d'augmentation des prix des carburants, écrit le Premier ministre Sébastien Lecornu, eh bien, le gouvernement versera à partir de demain ces fameux chèques énergie de 153 euros en moyenne à 3,8 millions de foyers, plus 700 000 autres au 1er mai, pour aider les plus modestes à payer leurs factures de gaz, de fuel ou d'électricité. Des factures qui ont flambé, mais le montant du chèque, lui, n'a pas bougé, Alfred Orange.
Oui, parce qu'entre 2019 et 2026, les factures d'électricité ont en moyenne augmenté de 27% selon les calculs du comparateur Selectra. Pour RMC, c'est même 86% de hausse pour les factures couplées d'électricité et de gaz, alors que dans le même temps, le montant du chèque énergie, lui, n'a pas bougé. Dans le détail, l'efficacité de cette aide s'effrite. Exemple, en 2019, elle absorbait pour un foyer près de 13% du montant annuel d'une facture d'électricité et de gaz. Ce n'est plus que 7% aujourd'hui. Sur les factures annuelles de fuel, la couverture du chèque énergie se dégrade aussi, avec seulement 5% du montant total absorbé par l'aide. C'est presque deux fois moins qu'il y a 7 ans.
On vous dit tout ce matin sur RMC. On vous dit tout sur le grand retour de Céline Dion. 4 ans après sa dernière tournée qui avait été annulée pour des raisons de santé, elle va revenir en septembre, en octobre pour une série de 10 concerts précisément à Paris. Paris, je suis prête. Voilà ce que disait la chanteuse canadienne dans le message qui a été diffusé sur les réseaux sociaux hier soir avec au même moment un décompte carrément sur la Tour Eiffel comme pour le passage à la nouvelle année. Vous voulez vous procurer des places pour cette série de concerts. Romain Ouguela, c'est la course aux places qui a commencé, Romain. Ça va se passer très vite. Faut être dès maintenant.
Ah oui, et il va aussi falloir compter un peu sur votre bonne étoile, car pour avoir accès à la prévente, il faut être tiré au sort. Pour cela, vous avez jusqu'à jeudi 19h pour vous inscrire sur le site, et uniquement sur le site CélineDion.com. Attention aux arnaques et aux faux sites qui fleurissent déjà. Les heureux élus seront informés par mail, auront un code d'accès et pourront tenter d'avoir un billet le 7 avril à 10h. La plupart des billets de la tournée seront vendus lors de cette première phase. Il vous restera alors une toute petite chance lors de la seconde phase. La vente générale des places cette fois aura lieu le vendredi 10 avril à partir de 10h. Vient ensuite le moment de sortir le portefeuille. Selon le journal Le Parisien, le prix des billets ira d'environ 90 euros à 300 euros. Chaque acheteur pourra prendre 6 billets au total, mais répartis sur plusieurs dates. Enfin, pour ceux qui avaient gardé précieusement leurs billets de la précédente tournée de la star en espérant pouvoir les utiliser un jour, eh bien, malheureusement, ce ne sera pas possible. Voilà, vous savez tout. Rendez-vous donc du 12 septembre au 14 octobre à la Défense Arena.
Et alors, l'étape va manquer, vous avez bien retenu, c'est de s'inscrire pour la prévente jusqu'à jeudi 19h précisément. Alors, il n'y a pas que les fans de Céline Dion, il y a l'Italie aussi qui retient son souffle ce matin. C'est pas exagéré de dire ça. L'Italie qui jouera ce soir en Bosnie sa place à la Coupe du Monde de football. C'est la finale du barrage. Pression énorme puisque les Italiens ont raté les deux dernières éditions du Mondial. Et pour ajouter de la dramaturgie, comme si ça suffisait pas, Valentin Jamin, vous nous racontez que le match va jouer dans un stade de la banlieue de Sarajevo. Cette histoire, ça ressemble à un traquenard.
Oui, un petit stade de 14 000 places à 70 km au nord de Sarajevo, un public hostile, une météo hivernale. Voilà ce qui attend l'Italie, 4 fois championne du monde. Il nous reste à gravir l'Everest, image le sélectionneur Gennaro Gattuso après avoir écarté l'Irlande du Nord.
Nous devons être prêts mentalement pour remplir l'objectif dont nous rêvons. Que ce soit moi, mes joueurs, les personnes qui travaillent à la fédération ou les 60 millions de personnes qui vivent en Italie, nous savons ce que nous devons faire.
Mais la sélection a décalé son départ à cause de la neige en Bosnie et une polémique s'est invitée car des joueurs ont célébré quand ils ont appris le nom de leur adversaire du soir. Le défenseur Federico Di Marco a dû s'expliquer.
Je suis désolé, je pense que c'était peu respectueux dans ce contexte. C'était une réaction instinctive, mais pas un manque de respect pour la Bosnie. Comment pourrions-nous être arrogants après avoir manqué 2 Coupes du Monde? Ça n'a pas de sens.
Et tous veulent redonner de la fierté à l'Italie, un pays où les jeunes de 12 ans n'ont jamais vu leur équipe disputer un mondial.
Et ce soir sur RMC, on aura aussi un œil sur ce qui se passe au Sénégal où une cérémonie est prévue à Dakar à l'occasion d'un match amical du Sénégal. On est 2 semaines, vous savez, après la décision de retirer la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal au profit du Maroc. énorme, un broglio. On en parle depuis deux semaines et le Sénégal va quand même présenter le trophée à ses supporters dans la soirée. On suivra ça évidemment sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. Ne bougez pas. Ne bougez pas parce que on revient dans deux minutes. Votre téléphone va peut-être sonner. Tirage au sort du gagnant des 120 000 euros qu'RMC vous offre. Cette historique deuxième fois de son histoire qu'RMC vous offre cette somme considérable. 120 000 euros. Restez bien à l'écoute et bien proche de votre téléphone. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Arnaud Demange va venir nous rejoindre également. Notez qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. 4 soldats israéliens tués cette nuit au Liban dans une embuscade. Ça fait un mois maintenant qu'il y a cette guerre. Quelle sortie possible? Quel scénario? Quelle est la situation sur place? Et comment tient encore ce régime pourtant décimé? On y revient avec Gilles Kepel à 8h30. Juste après, il y aura face à Canteloup, comme tous les jours sur RMC. Nicolas Canteloup, c'est à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h12, Arnaud Demanche est avec nous, mais je dois vous le dire, le gagnant a été tiré au sort.
Ça y est,
c'est fait. Le gagnant a été tiré au sort, mais je vais l'appeler en direct, il faudra décrocher. Je vais vous appeler juste après Arnaud Demanche, donc restez bien à l'écoute, 120 000 euros, c'est énorme. Alors Arnaud?
J'espère que c'est moi. C'est moi?
Non, c'est pas moi.
Ton téléphone sonne.
Mon téléphone, bah, j'aimerais bien. Bonjour les amis, alors oui, évidemment, dans un instant, l'un d'entre vous, chers auditeurs, va gagner 120 000 balles. Apolline, vous savez ce que ça veut dire? On va avoir notre premier auditeur CSP+. Et ça se fait un bourgeois. Il va pouvoir s'acheter des places pour Céline Dion.
Ah, voilà.
Vous avez vu hier soir? Céline revient! Elle avait le choix entre Londres, Las Vegas et Nanterre. Et elle a choisi Nanterre. Elle est chez nous. Il y avait un décompte sur la Tour Eiffel, quoi. Et une annonce sur France 2. On a dû tous regarder mot de passe. Avant de savoir ce qu'elle allait nous dire, ils ont dû faire des chiffres d'audience hallucinants à mot de passe. Ce matin, ils doivent être fous. Les gars, on tient un concept. On l'a, ça marche. Appelez Didier Gustin, proposez-lui 1 million. Il faut l'avoir tout de suite. Et puis après, il y a eu la déclaration officielle de Céline Dion.
Princesse, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, pardon.
Non, c'est pas la
Nous peine. Sommes en guerre. Enfin, vous allez être en guerre pour avoir des places.
Ah oui.
Je travaille mon accent canadien. J'en ai parlé au monsieur canadien qui intervient dans votre émission. Je dis, t'as vu pour Céline Dion? Il m'a dit, Céline qui? Il est en France depuis trop longtemps, cet homme-là.
Stéphane Bureau, que l'on
Stéphane salue. Bureau, gros bisous. L'actu quand même. Hier, c'était la grande manifestation contre les prix des carburants. Tout le monde gueule, sauf notre futur gagnant qui va prendre 120 000 euros. Il va pouvoir s'acheter des litres d'essence grâce à RMC. Mais sinon, partout dans le monde, on réfléchit à ce problème de carburant. Au Royaume-Uni, ils envisagent même de rationner l'essence. Déjà, arrêtez d'en mettre dans votre gastronomie locale, les gars. Le sujet de l'énergie, au sens large, hein, ça devient très préoccupant. Alors, j'ai vu un truc marrant. De plus en plus de crématoriums achètent des équipements pour que l'énergie produite soit réinjectée dans les réseaux de chauffage des villes.
C'est vraiment marrant, ça.
C'est vraiment rigolo.
C'est vraiment rigolo.
Mais c'est une solution d'avenir. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des vieux.
On a des vieux.
Non, mais j'ai vu qu'ils avaient installé un truc comme ça à Cannes. Les ressources sont inépuisable là-bas, c'est le Qatar des vieux. C'est vraiment ce qu'on appelle l'énergie fossile. Voilà, tu peux faire ça à la maison, hein. Une cérémonie, c'est toujours plus convivial à la maison. Le froid revient, là, me disait Géraldine.
Ah bah justement.
Eh ben, si mamie nous quitte, regardez si vous n'avez pas déjà une cheminée chez vous.
Oh non.
Papa,
non.
Ça sent trop bon. T'as fait un gâteau? Mais non, c'est mamie qui avait du diabète.
Oh non.
Ça sent le caramel.
Non.
En plus, ça vous économise un aller-retour au crématorium. C'est toujours ça de prix niveau essence. Est-ce qu'ils vont faire pareil à l'Elysée? Attention, Brigitte.
Oh non.
Prochaine claque. Non, on n'a pas le droit.
Non.
Non, mais j'entends déjà les personnes âgées protester après la chronique. Eh oh, ça va, calmez-vous. Hein. Déjà qu'on va devoir bosser plus longtemps pour payer vos retraites, vous pouvez rendre un petit service au moment du départ. Vous, ça vous concerne plus.
Oh mon Dieu, allez, CNews a suscité la polémique après un débat donc sur le maire de Saint-Denis. Un chroniqueur a débuté sa chronique à son sujet en rappelant que nous descendions tous des singes.
Oui, quelle manière intelligente de démarrer une chronique sur un élu noir.
Quand tu penses que tous ces news se pavanent en disant « Oui, nous sommes des intellectuels », ils arrivent encore à se fourrer dans des situations pareilles. C'est lunaire, en fait. De toute façon, depuis une semaine, sur les plateaux de CNews, c'est Bagayoko en boucle. C'est leur réponse à toutes les questions, le maire de Saint-Denis. On dirait « Question pour un champion », vous savez. Jean-Philippe Tanguy, qui laisse prospérer les délinquants ?
C'est le maire noir !
Et qui fait entrer l'islamisme dans nos écoles ?
C'est le maire noir !
Qui veut désarmer la police ?
C'est le maire noir !
Oui, 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 oui ! 4 à la suite, vous gagnez un dictionnaire sur les années 30. Alors depuis, depuis CNews, on cherche à se justifier en disant qu'on n'est pas raciste et que tout ça, c'était juste de l'anthropologie, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue dans Face à Devilliers. Bonjour Christine Kelly. Est-ce que vous arrivez à y croire ? On accuse CNews de racisme. C'est inouï, c'est la première fois. Personne n'est raciste ici. Tenez, ce matin, j'ai pris un taxi, le chauffeur était arabe. Ben voilà, j'étais ravi. J'étais ravi qu'il soit pas pilote d'avion déjà. Taxi, c'est un très joli métier. Et pour en revenir à cette polémique, ce n'est que de l'anthropologie. Nous descendons tous des singes. Vous, moi, n'est-ce pas Christine Kelly que vous descendez du singe ? Connard ! Christine ? Christine, Christine, c'était de l'anthropologie, Christine. Ebony and ivory, lift together, asimbonanga, asim. Vous vous rendez compte qu'on arrive à un stade où même la caricature de ça devient embarrassante. Allez, à demain. Et maintenant,
il est 8h17. Attention, il est 8h17, c'est l'heure. C'est l'heure.
RMC vous offre 120 000 euros. Ouais.
Et on vous les offre maintenant. Depuis le 18 mars, vous vous inscrivez pour tenter de les remporter. C'est 120 000 euros, 100 000 euros pour vous, 20 000 euros pour un proche si, quand on l'appelle, il ou elle répond qu'il écoute RMC. Et ça y est, c'est le moment. Si vous êtes en voiture, garez-vous. Si vous êtes au petit-déj, posez vos tartines, posez le café, parce que c'est le moment. Je vais appeler le gagnant dans quelques secondes. Le temps de vous dire que le tirage au sort a donc été effectué il y a quelques minutes seulement. Vous êtes très très nombreux à avoir participé, mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Alors on va lancer l'appel en régie. Attention, on appelle. Allô ? Allô ?
Allô ?
Oui, Gérard ?
Allô ?
Oui, Gérard, bonjour, c'est Apolline.
Oh, je suis... Ah
Gérard, c'est vous ?
Attendez, je coupe juste le son de la télé.
C'est vous qui avez... Mais si, vous venez de gagner 100 000 euros. Je peux vous l'annoncer, Gérard.
C'est pas possible!
Gérard, nous sommes le mardi 31 mars et à partir d'aujourd'hui, ça y est, vous êtes en possession de cette somme de 100 000 euros que l'on vous offre! Bravo, Gérard!
Bravo, Gérard!
Bravo!
C'est pas possible!
Allez-y, Gérard! Dites-nous!
Ça fait 21 ans que j'écoute RMC depuis Brigitte et... Je vais vous dire, j'ai rêvé de vous que vous aviez le casque d'or. J'espère qu'Elisabeth m'écoute.
Ah bah, j'espère que tout le monde vous écoute. D'abord, c'est vous qui êtes couvert d'or. C'est vous qu'on couvre d'or. Mais oui, Gérard, c'est possible et c'est génial. C'est génial. Bon, alors attention, Gérard, d'abord, est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que vous savez déjà ? Est-ce que vous avez commencé à en rêver ?
Partager avec ma famille. Le voyage, je ne peux pas parce que j'ai problème de mobilité. Et j'aimerais bien voyager, mais je peux pas. J'ai perdu ma fiancée il n'y a pas longtemps. J'ai pas envie de voyager. Voilà.
Mais nous, on va vous le remonter le moral.
Changer les idées, voilà.
Eh ben justement, on va vous le remonter le moral, Gérard. Alors d'abord, bon, Gérard, vous savez comment ça marche. Les 100 000 euros, ça y est, c'est gagné. Ils sont à vous, ils vont vous être envoyés sur votre compte en banque dans les jours qui viennent, ça y est. Vous les avez gagnés, ces 120 000 euros. Et maintenant, vous savez qu'il y a aussi 20 000 euros pour la personne de votre choix. Je crois que vous avez donné deux numéros, vous avez donné deux prénoms. Et on va les appeler maintenant. On va d'abord appeler le premier prénom que vous nous avez donné. Il oui. faudra que cette personne, quand on l'appelle, dise qu'il ou elle écoute RMC. D'abord, quel est le prénom
Gérard. Oui, pardon, excusez-moi, mais elle vous dira. Il vous dira que c'est Philippe, parce que c'est mon deuxième prénom.
Ah d'accord, donc c'est Gérard Philippe. Bon, alors, dites-nous quel est le prénom de la personne que vous avez mis en numéro 1.
Elisabeth,
on l'appelle tout de suite, on appelle Elisabeth.
Ouais, j'espère qu'elle va décrocher.
Ouais, moi aussi j'espère.
Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06.
Oh non, attendez, on retente. On retente.
Ah. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06.
Alors, on a un deuxième prénom, je crois, n'est-ce pas?
C'est Jackie.
Allez, on appelle Jackie.
Bonjour, enregistrez votre nom et le motif.
Oh là, c'est complètement décourageant. Gérard, je suis avec vous total à 250%.
Bonjour, enregistrez votre nom et le motif de votre.
Oh non, ça c'est complètement décourageant.
On vous propose un troisième prénom, non. Arnaud.
On va vous envoyer un 06 d'Arnaud. Non, je crois qu'on est obligé de s'arrêter là dans les appels. En tout cas, les 100 000 euros, c'est pour vous. Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. On est très très fiers, très très heureux pour vous. Le chèque arrive, il est là, je l'ai entre les mains.
J'espère que vous avez
aïe, c'est extraordinaire. Il est à votre nom, Gérard. Vous les avez gagnés.
Comment ça marche?
Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, Gérard.
C'est Arnaud qui s'y colle.
Vous n'avez rien à faire. Franchement, c'est extraordinaire. Il est pour vous, on s'en occupe. Vous les avez gagnés, les 120, les 100 000 euros. C'est magnifique. Net d'impôts sur votre compte en banque. C'est un très grand plaisir. Et de savoir aussi que vous nous écoutez, que vous rêvez de nous même, Gérard, franchement. Vous allez pouvoir rire. Ça fait plaisir. Félicitations, Gérard. C'est magnifique. C'est historique. RMC qui vous a donc offert ces 100 000 euros. C'est la deuxième fois de son histoire qu'RMC vous offre une telle somme. Bravo et bravo à vous, Gérard. Il est 8h23. Va falloir quand même que j'arrive à me remettre dans autre chose. C'est toujours difficile. Mais dans un instant, c'est l'interview, le face-à-face. Mon invité, c'est Gilles Kepel. On va évidemment parler de la guerre en Iran. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, c'est aux éditions Plomb. Un mois de guerre. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les scénarios sur la table? L'Iran est-il finalement invincible? Peut-il tenir ce régime? Où en est-il? Les Houthis en mer Rouge, le détroit d'Hormuz, les véritables décisions de Donald Trump ou d'Israël, la situation du Liban? Je voudrais d'abord comprendre avec vous, au bout d'un mois de guerre, où est l'avantage? Y en a-t-il un véritablement?
Non, il est toujours nulle part. Le régime iranien s'est bunkérisé et essaye de tenir le plus longtemps possible pour infliger le maximum de dommages à l'économie mondiale, pour faire plier Donald Trump. Et Donald Trump s'efforce de taper le plus possible sur l'Iran, en espérant que l'Iran va craquer et que donc que le premier qui va abandonner dans cette affaire, qui va dire pouce, a perdu d'une certaine manière. Les deux se livrant à une sorte de poker menteur, avec surtout l'élément qui me semble important aujourd'hui, c'est que plus personne n'accorde la moindre crédibilité aux déclarations de Donald Trump qui changent en permanence.
Y compris parfois dans la même phrase, quasiment.
Voilà, exactement. Et autrefois, quand il disait « c'est fini », on voyait tout d'un coup le prix du pétrole qui baissait de 10%. Aujourd'hui, quoi qu'il dise, ça n'a plus aucune importance. Et ça, c'est extrêmement préoccupant pour lui, parce que la crédibilité du dirigeant de la plus grande puissance de la planète aujourd'hui est à peu près nulle, en dépit du fait qu'il est, son site s'appelle Truth Social, la vérité des réseaux sociaux, mais qu'on pourrait appeler aussi le mensonge des réseaux sociaux.
La question, au fond, c'est que ça veut dire qu'on est dans une sorte de guerre d'usure. Le premier qui lâche, le premier qui craque aura perdu. Le Wall Street Journal croit savoir que Donald Trump envisage d'arrêter presque d'un coup, tout d'un coup, sans qu'il n'y ait plus ni de but de guerre, ni d'objectif rempli, ni de mission qui serait plus ou moins accomplie. À tout moment,
ça peut s'arrêter un peu en cours de route. Est-ce que c'est possible? Alors, ça, et quelles seraient les conséquences?
Trump, oui, c'est, il suffit qu'ils disent « j'ai gagné ». Mais simplement, si les marchés disent le contraire et si les soldats continuent de mourir, ça ne sera pas le cas. Parce que on voit bien que la guerre s'étend, et j'attire votre attention sur le fait que la situation du Liban est chaque jour plus catastrophique. Avec cette décision incroyable que l'autorité libanaise ont ordonné à l'ambassadeur iranien déclaré persona non grata de quitter le pays, le président du Parlement, Nabih Berish, chiite, a dit non, il reste et il est toujours là.
J'allais y venir, arrêtons-nous un instant là-dessus. On va prendre effectivement morceau par morceau, si je puis dire, la question des pays du Golfe. On a appris ce matin d'ailleurs qu'un navire koweïtien aurait été touché par l'Iran, ce qu'il se joue bien sûr dans le détroit d'Ormuz. Mais puisque vous évoquez le Liban, on a effectivement cet épisode qui cristallise au fond la situation du Liban. Le ministre des Affaires étrangères libanais, il y a une semaine, exigeait le départ de l'ambassadeur iranien du sol libanais, considérant qu'au fond, les Iraniens étaient ceux qui tiraient les ficelles du Hezbollah. Sauf que cet ordre d'expulsion des autorités libanaises n'a pas été respecté. Il avait jusqu'à dimanche soir pour quitter le pays. Et l'ambassadeur iranien affirme qu'il ne quittera pas le pays. Et il s'appuie, en effet, non plus sur le gouvernement, mais sur le patron du Parlement libanais. Ça veut dire qu'au sein du Liban, il y a un bras de fer qui est en train de se jouer.
Tout à fait. Alors, pour ceux qui ne suivent pas toute l'actualité libanaise
c'est
au jour le jour...
C'est pourquoi je voulais rappeler ces épisodes, parce que c'est vraiment une sorte de bras de fer qui s'est joué tout au long de la semaine.
Le président de la République est chrétien maronite, le premier ministre, donc c'est le général Joseph Aoun, le premier ministre, lui, est sunnite, musulman sunnite, et le président du Parlement est musulman chiite. Et c'est donc ce troisième personnage de l'État, Nabih Berri, qui s'est opposé à ce que les institutions font, que la décision prise par le gouvernement soit mise en œuvre. Les ministres Hezbollah, il y en a deux, ne siègent plus. Mais tout ça, c'est la suite de quelque chose qui a beaucoup surpris, y compris beaucoup de Libanais. C'est que après la destruction du Hezbollah par Israël en septembre 2024, la fameuse affaire des beepers piégés, vous vous souvenez, puis la mort de Hassan Nasrallah. En réalité, depuis plusieurs mois, des centaines d'officiers iraniens des gardiens de la révolution, des Pasdaran, sont entrés au Liban avec des vrais faux passeports, et ce sont eux qui ont rétabli la capacité de feu des chiites libanais, enfin avec surtout des officiers iraniens aujourd'hui, présents toujours aujourd'hui sur le territoire libanais. Et s'il y a eu des vrais faux passeports, ça veut dire qu'il y a une partie de l'administration, évidemment.
De la part d'une partie de l'administration libanaise.
Ce qui est un vrai problème, puisque ça veut dire que l'État libanais aujourd'hui est...
Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire qu'il y a cet ordre d'expulsion de l'ambassadeur iranien
qui ne sera pas exécuté.
Ça veut donc dire que désormais il y a eu un bras de fer, et que ce bras de fer, au moment où on en se parle, il est gagné par le Hezbollah contre le reste des autorités libanaises.
Pour l'instant, mais et maintenant, il y a un autre acteur qui est présent sur le sol libanais, qui est Israël.
Évidemment.
Et donc l'armée israélienne arrive aujourd'hui jusqu'au fleuve Litani. Donc c'est 30 kilomètres au nord de la frontière israélo-libanaise. Il y a des incidents récurrents avec les forces de la FINUL, avec les Français, pas uniquement d'ailleurs. Il y a eu des soldats qui sont morts, c'est des gardiens de la paix qui sont morts. Il n'est pas impossible que Israël décide d'intervenir, par exemple pour forcer l'ambassadeur iranien à partir, fût-ce par une action offensive.
Ça cristallise aussi cette question-là. Est-ce que ça veut dire aussi que lorsqu'on entendait le premier ministre libanais il y a encore 8 jours dire qu'il voulait désarmer le Hezbollah, s'il n'est pas même capable de faire respecter son autorité sur le départ de l'ambassadeur, alors on se dit qu'il n'a pas les moyens de désarmer le Hezbollah.
Non seulement lui, mais que l'Occident qui le soutient est impuissant. Et c'est une provocation calculée, évidemment, du pouvoir iranien, qui veut montrer qu'il est irrésistible dans la région. C'est dans le jeu des signes du rapport de force, c'est ça. Et c'est le champ ouvert, évidemment, à l'option israélienne pour une intervention qui obligerait...
C'est-à-dire ça donnerait un prétexte, bien en sûr, quelque sorte, pour vous, à Israël, pour continuer à Que se passe-t-il dans le sud du Liban? Est-ce qu'on peut parler d'invasion d'Israël? Est-ce qu'on peut parler d'offensive? Cette zone tampon, est-ce que ça a vocation à devenir la prolongation de son territoire, ce qui serait évidemment en violation avec tout ce qui s'est fait jusqu'alors? Où est-ce qu'on en est?
Ça, c'est l'ambition de Monsieur Smotrich, donc l'un des plus les ministres colons les plus importants, qui dit qu'il faut annexer le sud Liban, le Litani doit être la frontière nord d'Israël. Dans les faits, aujourd'hui, l'armée israélienne est présente. La zone a été vidée de ses habitants, mais pas de ses combattants. Et il y a eu quatre soldats israéliens qui ont été tués ce matin. Dans cette zone, enfin, on a annoncé leur mort ce matin. Donc, les combats continuent. La FINUL est présente toujours à Narkoura, qui est la ville côtière libanaise, à la frontière libanaise, libano-israélienne. Mais pour l'instant, effectivement, c'est une zone qui est un peu un no man's land, avec en contrepartie publique, zone, il y a surtout des chiites, il y a également des chrétiens, surtout des chiites, qui ont été poussés vers le nord par les ordres d'expulsion, ce qui fait que le Liban aujourd'hui est un pays dans lequel les tensions communautaires sont de plus en plus importantes, puisque vous avez des réfugiés qui sont massivement chiites, qui sont installés dans des zones qui sont massivement chrétiennes et sunnites, avec des tensions qui sont en train de monter, d'autant plus que chaque fois que des chiites sont réfugiés dans des appartements où il y a des populations mixtes, et que Israël soupçonne ceci d'être lié au Hezbollah,
ils peuvent être ciblés.
Il y a des frappes, ce qui veut dire que les frappes ne sont plus seulement en zone chiite, mais aujourd'hui dans un quartier comme Hazmeyeh, par exemple, qui est un quartier chrétien de Beyrouth, qui est la frontière, qui a été victime de très nombreuses frappes.
Gilles Kepel, si on commençait cet entretien en évoquant la difficulté à suivre les décisions de Donald Trump, si Donald Trump décidait de cesser la guerre dans quelques jours, se disant qu'au fond il n'arrivera pas à débloquer le détroit d'Hormuz, une forme peut-être même d'impuissance qu'il maquillerait en victoire, est-ce que Israël désormais pourrait être tenté de continuer sans les Américains?
Alors Israël peut toujours continuer sans les Américains, mais pas avec la même capacité, pas la même puissance. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu sur les marchés principalement, et plus que sur le champ de bataille lui-même. C'est-à-dire, est-ce que il y a capacité à refaire fonctionner l'économie mondiale? Jour après jour, la situation au Moyen-Orient impacte la vie quotidienne du monde entier. On voit ici les grèves des camionneurs et des routiers, c'est vrai.
Le prix du gasoil qui n'a jamais été aussi élevé. Voilà. On est à 2,20 € le litre.
Absolument. Donc, bien sûr, on se plaint, des populations souffrent. C'est encore pire en Asie, par exemple, où les pêcheurs ne veulent plus prendre la mer. Il va y avoir, parce que c'est trop cher. Et il n'y a pas les filets de sécurité que nous avons ici.
Gilles Kepel, vous parliez effectivement du reste de la région. Après le Koweït et les Émirats, on a appris que Bahreïn avait annoncé hier l'arrestation de personnes qui seraient liées au Hezbollah. Est-ce que ça veut dire que ces pays-là sont désormais, eux aussi, en quelque sorte en guerre, au moins avec les proches de l'Iran?
Oui, mais même avec l'Iran aujourd'hui. Et d'autant plus, le Bahreïn est un pays à majorité chiite. Le gouvernement est sunnite. Il y a eu d'ailleurs de nombreuses révoltes des chiites, dont beaucoup sont pro-iraniens. Donc, il est dans une situation de très grande fragilité. Mais vous savez, même les pays exportateurs de pétrole et les consommateurs, l'Égypte, par exemple, la Jordanie, sont aujourd'hui déjà en situation économique catastrophique. L'Égypte n'a plus quasiment de revenus du canal de Suez, qui sont beaucoup baissés parce que la mer Rouge est également en partie bloquée. Et les commerces égyptiens ont eu l'ordre de faire à 9h du soir pour éviter qu'il ait de la lumière. En Jordanie, on a interdit la climatisation et le chauffage, l'usage des voitures publiques. Donc, si vous voulez, toute la région est en train de s'enfoncer dans un marasme. La question étant de savoir, est-ce que les populations concernées vont dire c'est la faute des Iraniens ou bien c'est la faute des Américains et des Israéliens qui ont fait la guerre?
De quel côté va retomber en quelque sorte la pièce, mais aussi le jeu diplomatique? Aujourd'hui, on entend par exemple Al-Sisi qui appelle à l'aide en quelque sorte presque Donald Trump. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, leur allié est davantage l'Amérique, effectivement, que les autres pays de la région?
Alors, ça dépend. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'Égypte importait une grande partie, enfin, est productrice de gaz, mais importait tout le surplus d'Israël. Israël ne leur vend plus, parce qu'ils en ont besoin aussi. Et donc, la situation économique de l'Égypte, qui est structurellement déficitaire et catastrophique à cause de l'explosion démographique, aujourd'hui est de plus en plus grave. Et ça veut dire aussi que c'est, pour tous les dirigeants de la région, c'est un risque politique, y compris pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui a 35 millions de Saoudiens.
De quel côté est l'Arabie Saoudite ?
Alors, l'Arabie Saoudite est clairement engagée contre l'Iran aujourd'hui et ses forces de regrouper autour d'elle toutes les autres pétromonarchies. Mais elle est aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe parce que même si l'Arabie arrive à exporter une partie de son pétrole, puisque il y a un oléoduc qui va vers la mer Rouge, c'est ça, mais qui est soumis au bombardement des drones. Vous savez que la guerre des drones a tout changé. Regardez, si on fait un tout petit pas de côté, l'Ukraine aujourd'hui, qui est bombardé par les drones Shahid donnés à la Russie par l'Iran, aujourd'hui a établi non seulement des stratégies anti-drones qu'ils vendent très cher à tous les pays du Golfe qui avaient jusqu'alors des patriotes, des intercepteurs à 4 millions de dollars pour taper sur des drones qui les rataient une fois sur deux à 10 000 dollars, est aujourd'hui capable de fabriquer des drones qui ont cette nuit attaqué des ports russes dans la mer Baltique, des ports d'exportation pétrolière. Parce que l'augmentation des prix, c'est pas seulement l'étroit d'Hormuz qui est bloqué, mais c'est aussi le fait que l'Ukraine est aujourd'hui capable d'empêcher les Russes d'exporter.
On a l'impression que tout est désormais, effectivement, comme interlié. Gilles Kepel, la question qui se pose aussi, c'est quelle reste l'influence du régime iranien. C'est-à-dire qu'on se dit, ça fait un mois, il y a eu quasiment toute la tête de la pyramide, de la hiérarchie du régime islamique d'Iran qui a été décimée et pourtant l'Iran a effectivement cette capacité de résistance, de bombardement encore régulier, à la fois sur les pays du Golfe et sur Israël. Comment ça tient ? Est-ce que c'est un canard sans tête mais qui continue et qui peut continuer à marcher encore bien longtemps, ou est-ce qu'à un moment il va finir par s'effondrer ?
Alors, on n'a aucune image qui arrive d'Iran, hein. Et même c'est les gens qui nous parlent d'Iran sont contrôlés. Les images qu'on voit de manifestations pro-régime, on ne sait pas ce qui se passe dans la réalité du pays aujourd'hui. Puis il n'y a plus aucune communication, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien, sauf ce que contrôlent les gardiens. On ne peut pas imaginer qu'avec la masse de choses qu'il y a été bon des impacts sur l'Iran, les États-Unis ont annoncé plus de 30 000 frappes, je crois, donc que le pays puisse fonctionner éternellement comme ça. Je crois que c'est surtout une sorte de cristallisation dans cette économie de guerre le plus longtemps possible, quel que soit le sort de la population, avec surtout, et c'est là le miracle des drones, c'est la transformation de la guerre, c'est la guerre faite avec des armes du pauvre. On peut tirer des drones depuis un hangar.
Ça veut dire aussi que le temps joue pour l'Iran, au fond. Ils savent que Donald Trump, lui, à un moment, aura une population impatiente, aura un congrès impatient, et lui-même peut-être sera tout simplement impatient. Une question aussi sur l'influence iranienne dans les pays occidentaux, avec notamment cet attentat déjoué devant Bank of America et le risque élevé d'attentat. C'est ce que nous dit aussi le ministre de l'Intérieur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que cet attentat déjoué était une sorte de provocation pour nous dire, on veut juste vous dire qu'on est là et qu'on est capable, à un moment ou à un autre, d'actionner ce qu'on voudra ?
Alors, ça rappelle furieusement les attentats terroristes qui avaient été fomentés par le régime iranien dès le début des années 80 et le début des années 90. On en parle avec, justement, Jean-François Ricard dans notre livre « Antiterrorisme ». Et c'est là, il y a, sans savoir exactement qui est derrière ce qui s'est passé à la Bank of America à Paris, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire ce sont des empilements de contacts. On n'est jamais, on ne peut pas identifier le donneur d'ordre, mais ce sont généralement des délinquants originaires, en l'occurrence de Montreuil, pour un certain nombre d'entre eux, qui ont été payés pour commettre un attentat par des gens dont ils ne savent pas vraiment qui ils étaient, qui ont été payés en liquide, etc. Or ça, c'était le mode de fonctionnement que privilégiaient déjà les services iraniens.
Vous, qui êtes un des spécialistes aussi du terrorisme islamiste, on n'est pas du tout sur le même genre de mode opératoire. Est-ce qu'on a ici, sur le sol occidental, j'allais dire, des gens qui, comme pour les attentats d'il y a 10 ans, seraient prêts à mourir en martyr pour l'Iran ? Non.
Alors, c'est en train de bouger, parce que on voit bien que d'abord, toute la solidarité avec Gaza, qu'on peut apprécier ou qu'on peut ne pas apprécier, je suis pas en train de porter un jugement de valeur, mais qui a beaucoup mobilisé les choses. Et on voit maintenant, de plus en plus, une solidarité avec l'Iran. Un sondage paru il y a 2 jours en Grande-Bretagne a montré que 39% des musulmans britanniques stood with Iran, c'était se tenaient aux côtés...
Avec le régime iranien ?
Non, avec l'Iran en général, iranien. Parce qu'on fait pas la différence. On considère que c'est l'Iran, peuple musulman qui est injustement agressé par la puissance impérialiste et sioniste, si vous voulez, dans ce, entre guillemets, dans ce langage. Or ça, on voit bien que ce genre de choses est en train de prendre. Au fond, avec une guerre dont les objectifs sont pas clairs, avec un président américain qui dit tous les jours la vérité, mais dont on sait que c'est une vérité temporaire, fluctuante et qui contredit ce qui vient d'être dit. Vous voyez
voudrait dire que ce ne serait pas forcément seulement des attentats qui puissent être commandités avec des donneurs d'ordre, avec effectivement des missions de l'argent, mais qui pourraient en quelque sorte réveiller des volontés terroristes, presque, j'allais dire, depuis le sol occidental.
Écoutez, ça n'est pas impossible. En tout cas, c'est l'un des risques induits par la poursuite de la guerre et surtout par la confusion totale. Vous avez remarqué que le gouvernement français, les gouvernements européens ont été soucieux de se différencier, de dire ça n'est pas notre guerre, elle a été menée sur décision américaine et israélienne, en dehors de l'international, l'ONU n'est pas impliquée. Emmanuel Macron n'a pas voulu envoyer le porte-avions, bien lui en a pris, parce que dans Détroit d'Hormuz, il aurait été coulé sans doute très rapidement par des drones. Il faut le laisser très loin dans la mer. Mais néanmoins, dans la confusion générale qui est en train de se mettre dans l'esprit public international, tout aujourd'hui
il y a une sorte d'association. Merci Gilles Kepel d'avoir fait le point avec nous. Un mois de guerre, donc on entre dans le deuxième mois. Gilles Kepel, professeur émérite des universités. Je cite votre dernier livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, c'est aux éditions Plomb. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Gilles Kepel était mon invité, il est resté avec nous. Rebonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Nous avons parlé de la guerre en Iran, évidemment. Philippe Devilliers voulait réagir.
Écoutez, j'ai lu les livres de M. Kepel. Enfin, juste les titres, ça m'a suffi. Monosujet, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est obsessionnel. Les titres, les voici. À l'ouest d'Allah. Au cœur, guerre au cœur de l'islam. Passion arabe. Le prophète et la pandémie. Djihad. Oui, va à la Mecque. Martine va à la plage en burkini. Des milliers de pages, même de Malherbe, des milliers de pages sur l'islam et pas un paragraphe sur Jésus. Pas une ligne sur Saint-Luc, Saint-Nectaire ou même Saint-Émilion. J'en demande pas beaucoup. Hein. Donc je vous le dis, monsieur Kepel, enfin monsieur Djibril Ben Kepel. Vous êtes possédé.
Merci monsieur Devilliers. Dominique de Villepin, vous réagir.
Madame de Malherbe, en effet, j'ai écouté attentivement M. Kepel nous exposer la situation actuelle au Moyen-Orient. Je trouve qu'il a progressé.
Bon.
Même si, bien sûr, il est encore loin d'avoir le niveau qui est le mien. Cette capacité à sublimer les mots pour embarquer son auditoire, cette éloquence, cette maîtrise de l'oratoire qu'on admire chez moi, moi y compris.
Ah, vous... Alors, la situation au Moyen-Orient elle-même, vous rejoignez l'analyse de Gilles Kepel, Dominique de Villepin ?
J'y viens. Dans les propos de M. Kepel, tout n'était pas parfait. Nous sommes d'accord. Nous en parlions d'ailleurs avec Laurent Neumann, mais on ne peut pas lui en vouloir. Lui n'a pas été comme moi un ministre des Affaires étrangères mondialement reconnu et envié, qui a côtoyé les plus grands dirigeants de la planète, qui fut la tête de proue du bateau France sur l'océan déchaîné de la géopolitique mondiale. Oui, je suis poète. C'est donc normal que M. Kepel tâtonne encore un peu. Mais assez parlé de lui. J'aimerais à présent vous exposer ma vision. Ma vision, c'est que cette guerre est excellente pour les affaires.
Alors, c'est pas tout à fait ce qu'a dit Gilles Kepel.
Oui, pour lui peut-être, parce qu'il n'écrit que des livres à 20 euros. Mais moi qui facture 100 000 dollars le moindre conseil à n'importe quelle milice rangée là-bas de la région, je remplis le tiroir caisse.
Okay, merci beaucoup, monsieur de Villepin. Tout de suite, on retrouve Marc-Olivier Fogiel pour les titres de l'actualité.
Eh oui, bonjour Gilles Kepel. Bonjour à tous, Laurent Neumann est là, Rachel Tadoudi, en fait, ils sont tous là. Qui est Rachel Kepel, si je
rappelle, est tout l'inverse de moi. Moi, je fais chialer les gens avec mes questions, alors que Gilles Kepel, lui, les gens chialent quand ils essayent de comprendre ses réponses. Ah ben si, on t'a vu, Apolline. Allez, Donald Trump a réitéré hier ses menaces de détruire complètement les centrales électriques iraniennes. Vivre sans électricité, ça dérangera peut-être les mollahs, mais pas les femmes iraniennes sous leur burqa. Elles sont déjà habituées depuis trop longtemps à vivre sans lumière.
C'est
clair. Et puis, depuis son retour à la Maison Blanche, pardon, les parties de golf de Donald Trump ont déjà coûté plus de 100 millions de dollars aux Américains en transport et en sécurité. Et encore, c'est rien à côté de ce que va coûter son parcours dans le golfe persique.
Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marco. Gilles Kepel était donc mon invité ce matin. Il souhaitait de nouveau détailler pour nous la situation en Iran. Rebonjour, Gilles Kepel.
Oui, écoutez, l'armée régulière et les gardiens de la Révolution, également appelés Pasdaran, il y a aussi, vous le savez, les Basiji, ces miliciens chiites, et pour quelques-uns, plus rares, bien sûr, sunnites. N'oublions pas, bien sûr, aussi les puissantes brigades du Hezbollah libanais, les brigades rouges en Italie, et bien sûr, nous en parlions avec Thibaut Texer, les brigades du Tigre en France. Sans oublier, bien sûr, les Houthis de Cuba.
Bien sûr.
Parce que chez Castro, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Mais les Mollahs doivent également faire face dans la région à des factions hostiles comme les Alaouites, à la 9, à la 10, sur qui, bien sûr, il faut compter. Et ça, le président américain Donald Trump.
Je
parle très bien américain, oui. Donald Trump.
Oh, c'est vrai que c'est très précis, tout ça. Mmh.
Oui, président aussi, que face à Donald Trump, la Russie, c'est pas drôle du tout, c'est la guerre. La Russie approvisionne l'Iran en armes via le canal de Panama par le biais de bateaux fantômes philippins battant pavillon malgache avec le soutien de la Chine et de ses alliés afro-caribéens comme la République islamique d'Haïti.
Donald Trump.
Oui, je me remets dans l'axe.
Oui,
dise la note, Donald Trump, ça me remet.
Oui,
le califat, bien sûr, vous l'avez noté, c'est pour ça que vous m'avez interrompu, le califat où habite le Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà.
Bien sûr.
Je ne voudrais pas rentrer dans des détails qui perdraient nos auditeurs ou peut-être Donald Trump. Vous avez vu qu'avec moi, vous faites le tour du monde plus vite que le Vendée Globe, mais en restant sur votre chaise.
C'est magnifique. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Les transporteurs routiers continuent leur mobilisation un peu partout en France pour réclamer des mesures supplémentaires face aux hausses de carburant.
Mais on s'en sort plus.
Nadine Morano, quel plaisir de vous retrouver. Vous participez au mouvement, vous conduisez les camions, vous.
Ben oui, mais comment tu veux je transporte les palettes de bouquins de mon Nico vers toutes les librairies de France, J'ai 5 tonnes dans le bahut. Mais là, avec le prix de l'essence, je le dis, je bosse à perte. Puis attention, moi, c'est pas une Kangoo, c'est pas un réservoir de 50 litres, moi. Mon Scania, c'est 800 litres à chaque plein. T'imagines la douloureuse? Même quand l'esthéticienne me fait le maillot, ça me fait moins mal.
Oh non. Vous allez prendre le périphérique parisien, là,
du moins, non? Ah, mais moi, hier, je manifestais pas sur le périph', j'ai juste rendu service à mon Nico pour retarder son procès. J'ai garé le 38 tonnes devant le palais de justice, voilà. Mais bon, va falloir que je m'arrache parce que j'ai encore 15 palettes de Kleenex à livrer à Rachida Dati.
Bon, eh bien, merci infiniment, Madame Morano. Dans un instant... Oui, merci. Merci, Nicolas.
Merci à Gilles Kepel d'être là.
Les grandes gueules. Merci beaucoup à Gilles Kepel d'avoir joué le jeu. Dans un instant, les grandes gueules en direct du Salon Global Industrie à Villepinte. Comme invité, ils ont le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, qui sera donc face au GG.